Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Comme l'a dit votre pasteur il y a quelques instants, c'est un survol rapide du livre de l'Apocalypse que nous avons effectué pendant ces jours. Et nous allons maintenant aussi, ce matin, faire un survol des derniers chapitres qui pourtant mériteraient qu'on s'y arrête extrêmement longtemps. J'aimerais que nous lisions ce matin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes et s'assirent sur eux pour le jugement qui fut donné entre leurs mains, les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu le signe et sur le front et sur la main. Ils vécurent et ils régnèrent avec le Messie pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de domination sur eux, car ils seront prêtres pour notre Dieu et pour le Messie, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le christianisme, comme le disait mon professeur de Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, le christianisme est une religion juive. Et puisque je suis à vous choquer, je vais continuer à vous choquer encore plus. C'est une religion juive et c'est même une religion pharisienne. Alors là, il y a moins d'amen. Et pourtant, c'est ainsi. Paul ne s'est jamais détourné et n'a jamais renié son pharisaïsme. Il était fier d'être pharisien. Et la doctrine essentielle des pharisiens, c'était la foi dans la résurrection des morts. Et si je vous ai dit tout à l'heure, pour vous choquer un peu, que le christianisme est une religion pharisienne, c'est parce que le christianisme peut se résumer en une seule phrase, comme le fait d'ailleurs l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Christ est ressuscité. Ça, c'est quelque chose qui est typique de cette foi essentielle qui était celle justement des pharisiens. Paul le répète devant ses juges quand il dit « C'est pour ce qui est l'espérance de nos 12 tribus d'Israël qui servent Dieu nuit et jour. Quoi vous semble-t-il étonnant que Dieu ressuscite les morts ?» Et au centre de la foi juive, comme de la foi chrétienne, hier comme aujourd'hui, il y a la foi, la certitude et l'espérance de la résurrection des morts. Et cette résurrection des morts, elle est particulièrement, comment dirais-je, manifestée. Quand on va à Jérusalem, et notamment lorsque l'on visite le Mont des Oliviers, on peut constater que sur les pentes du Mont des Oliviers, il y a des milliers et des milliers de tombes. De telle sorte que le Mont des Oliviers est en réalité un immense cimetière. Et aujourd'hui encore, des Juifs riches, qui habitent l'Europe, l'Amérique, l'Australie ou ailleurs, se font transporter après leur mort à grands frais à Jérusalem, à seule fin d'être enterré sur le mont des Oliviers. Pourquoi cela ? Parce qu'il nous est dit dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, que lorsque le Messie viendra au dernier jour, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et lorsque le Messie reviendra sur le mont des Oliviers, les morts ressusciteront. Et voyez-vous, beaucoup de ces Juifs qui depuis des générations et des générations se font enterrer sur le mont des Oliviers pensent un peu naïvement que plus près ils seront enterrés de l'endroit où aura lieu l'événement, plus de chances ils auront d'y participer. Il y a quelques années de cela, je traversais ce cimetière des Monts des Oliviers avec un pasteur de mes amis et il m'a posé la question « Est-ce que tu crois que je pourrais être enterré ici ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas, après tout, si ce n'est que ce n'est pas donné. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais, tu sais, que tu sois enterré ici ou que tu sois enterré à des milliers de kilomètres de là, ça ne changera rien du tout. Quand le Seigneur reviendra, où que tu seras ressuscité. » C'est pour l'assurance, la foi dans la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous, disait l'apôtre Paul. Et nous voyons ici dans le livre de l'Apocalypse ce qui est l'accomplissement de cette espérance. Après tous ces drames que nous avons évoqués pendant ces jours, nous arrivons à ce grand moment où nous voyons justement s'accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Le Seigneur qui vient dans sa gloire, avec ses saints, avec ses anges, et qui anéantit ces puissances hostiles que nous avons évoquées, ces bêtes monstrueuses, diaboliques, cette grande Babylone, ce grand village mondial qui s'est dressé contre Dieu, et comme nous l'avons dit, dont la destruction est la condition sine qua non de l'établissement du règne messianique. Et lorsque le Seigneur vient dans sa gloire, alors non seulement ses ennemis sont dispersés, comme l'avons vu hier, mais ici a lieu non pas la résurrection des morts, nous est-il dit, mais la résurrection d'entre les morts. Voyez-vous, le judaïsme croit à la résurrection des morts. Mais l'apôtre Paul, au travers de la révélation qu'il avait reçue de Dieu, lui le pharisien, va nous dire, dans la première épître aux Corinthiens en particulier, que cette résurrection qui est le terme même de l'histoire humaine, eh bien, c'est quelque chose qui va avoir lieu en plusieurs phases, en plusieurs temps. Et Paul nous dit ceci, la résurrection, elle a déjà eu lieu potentiellement en la personne de Jésus. Et comme je disais tout à l'heure, le christianisme se résume par cette affirmation, Jésus est ressuscité. Et Paul nous dit, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que déjà potentiellement, chaque être humain est ressuscité. Parce que, nous dit Paul, de la même manière que chaque être humain meurt en Adam, parce qu'il est fils d'Adam, tous, absolument tous, revivront en Jésus le Messie. Ils revivront parce que Jésus est le second Adam. Et si le premier Adam est devenu une âme vivante, le deuxième Adam, nous dit l'apôtre Paul, est devenu un esprit qui donne, qui communique la vie. Et dans d'autres textes, Paul nous dira que déjà dans la foi, c'est comme si nous étions déjà ressuscités. C'est comme si nous étions déjà assis avec le Seigneur dans les lieux célestes, dans la gloire, et participant à ce jugement que nous avons lu tout à l'heure décrit dans ce texte de l'Apocalypse. Bien sûr, tout cela n'est encore qu'un objet de foi. La réalité, elle n'est pas encore là. Mais pour Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est une chose qui est déjà faite. Maintenant, nous dit l'apôtre Paul, s'il en est bien ainsi, eh bien, cette résurrection aura lieu en différentes étapes, chacun en son rang. D'abord, nous dit-il, le Messie, lors de la résurrection à Pâques, le troisième jour. Et puis, il nous est dit, ensuite, ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Et là, comme le dit l'apôtre Jean dans le texte que nous avons lu, il y a une résurrection partielle. Une résurrection qui concerne seulement une certaine catégorie de morts, une certaine catégorie seulement de décédés. D'abord, en priorité absolue, ceux qui ont versé leur sang pour le nom de Jésus. Ceux-là, évidemment, ils sont les premiers à participer à cette résurrection puisqu'ils ont accepté la mort volontairement. Et aussi, nous est-il dit, ceux qui n'ont pas plié les genoux, ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et devant son image et qui sont restés fidèles au Seigneur. Et ces gens-là participent à la résurrection lors de l'avènement du Seigneur. J'ai eu l'occasion de dire qu'il y a une question que le peuple juif pose et ne cesse de poser. Quels seront les signes par lesquels on reconnaîtra le véritable Messie? J'ai dit hier que d'abord il y aurait deux témoins. Nous lisons ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Deux témoins qui sont Moïse et Élie, qui viendraient affirmer d'une manière forte au peuple d'Israël que celui qui vient sur les nuées est bien le Messie qu'ils ont attendu. Et les textes de Zacharie en particulier nous montrent qu'à ce moment-là, le peuple juif réalisera que celui-là n'est autre que Jésus. Et par conséquent, eh bien, il y aura cette grande réconciliation qui est aussi quelque chose qui est annoncé au temps de la fin. Par conséquent, quels seront les signes du véritable Messie? Premièrement, ce témoignage de ces deux témoins. Et deuxièmement, le fait que le Messie ressuscitera les morts. Et en troisièmement, il reconstruira le temple. Voilà les trois signes auxquels on reconnaîtra le véritable Messie. Ressusciter les morts, vous l'avouerez, ça n'est pas à la portée du premier venu. Et par conséquent, la résurrection des morts sera véritablement le signe de l'entrée dans le royaume messianique. Maintenant, le problème qui se pose est celui-ci, avec quel corps, justement, les morts ressusciteront. Je constate, quand je parle de ces choses, qu'il y a une grande méconnaissance, bien souvent, au sein du peuple de Dieu. Et bien souvent, on a une idée un peu fausse de la résurrection, parce qu'il y a, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, un mot qui est, que nous ne comprenons pas très bien, parce que nous sommes conditionnés par la philosophie grecque. Et ce mot, c'est celui-ci. Il dit, nous avons eu un corps charnel, et à la résurrection des morts, nous revêtirons un corps spirituel. Et parce que nous sommes conditionnés par la philosophie grecque, pour nous, spirituel signifie immatériel. Et pour beaucoup de chrétiens, le corps de la résurrection sera un espèce de corps sans consistance, sans substance. Pour parler autrement, nous serons une sorte de fantôme. Or, dans le langage biblique, dans le langage de Paul, spirituel ne signifie pas forcément immatériel. Spirituel signifie ce qui vient d'en haut, par opposition à ce qui est charnel, ça veut dire ce qui vient d'en bas. Et notamment, lorsque nous posons cette question, qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel? Alors, il nous faut nous arrêter sur ce qu'était le corps de Jésus à la résurrection. Dans les récits de la résurrection, nous voyons Jésus qui apparaît soudain dans la chambre haute où se trouvaient ses disciples alors que toutes les portes étaient fermées. Et quand ils le voient, les disciples ont peur. Et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Ils avaient peur parce qu'effectivement, ils croyaient voir un esprit, ça veut dire qu'ils croyaient voir un fantôme, comme nous disions tout à l'heure. Et Jésus leur dit, « Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles de vos cœurs ? Touchez-moi et voyez que j'ai bien de la chair et des os, ce qu'un fantôme n'a pas. » Et comme dans la joie qui est la leur, ils ne croient pas encore, Jésus demande qu'ils lui apportent quelque chose à manger. Non pas que Jésus, dans son corps glorifié, ait eu besoin de manger, mais il l'a fait pour montrer qu'il pouvait manger. Jésus avait bel et bien un corps matériel, mais un corps qui avait des propriétés extraordinaires. Il pouvait apparaître et disparaître en un instant. Il pouvait passer au travers des portes fermées, nous en avons parlé tout à l'heure. Il pouvait passer aussi au travers du tombeau, comme il l'avait fait au moment de la résurrection. Par conséquent, ici, voilà le corps glorifié dans lequel nous serons transformés au dernier jour. Maintenant, cette première résurrection dont nous parle ici l'apôtre Paul, elle concerne ceux qui sont les morts justes. Les autres morts ne revinrent pas à la vie. Ça veut dire qu'il y a trois étapes à la résurrection. La première, la résurrection de Jésus. La deuxième, la résurrection des morts en Jésus au moment de son avènement. Et à la fin, nous allons en parler tout à l'heure, la résurrection de tous les morts, justes ou injustes. Et Paul dit ça aussi, j'ai cette espérance qui est aussi la leur, qu'il y aura une résurrection des justes, mais aussi des injustes. Alors, revenons sur cette première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Cette résurrection, elle sera annoncée aussi, nous disent les textes bibliques, comme la tradition juive d'ailleurs, au son du shofar. L'idée du shofar, et nous la trouvons déjà dans le psaume 7, verset 9, nous la trouvons également dans le livre du prophète Ésaïe, « On sonnera du grand shofar et vous serez rassemblés dans ce temps-là, enfants d'Israël. » Le shofar, la sonnerie du dernier shofar sera la sonnerie pour le rassemblement. Alors, pour rester sur cette question de la première résurrection, il y a une dernière question qui se pose. Qu'en sera-t-il de ceux qui seront vivants au moment où aura lieu cet événement de la résurrection des morts? Qu'arrivera-t-il s'il y a des justes qui, eux, sont bien vivants à ce moment-là? Faudra-t-il qu'ils meurent pour ressusciter? J'avoue que ce serait un peu bête. Alors, qu'est-ce qui se passe, nous dit l'apôtre Paul? Toujours dans le chapitre 15, il nous dit « les vivants ». Qui seront restés pour son avènement, seront transformés, ils revêtiront ce corps spirituel, ce corps glorieux, ce corps immortel dont nous avons parlé, au-dessus, si j'ose dire, de leur corps charnel. Ça veut dire que ce corps charnel sera transformé en un corps spirituel. Et, eh bien, ils rejoindront ceux qui ont été ressuscités. L'apôtre Paul nous dit, nous, les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts auront priorité sur les vivants. Mais finalement, ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, finalement, c'est une participation des vivants à la résurrection finale. Et cette résurrection, elle donne comme privilège à ceux qui en sont l'objet de pouvoir régner et juger. Juger et régner, c'est presque deux synonymes. Dans la Bible, juger, c'est aussi gouverner, diriger. Nous avons, par exemple, un livre qui s'appelle « Le livre des juges ». Quand vous lisez ce livre, vous constatez que ceux que l'on appelle des juges ne sont pas forcément des gens qui exercent des fonctions juridiques, mais ce sont en fait ce qu'on appelle en anglais des leaders, des rulers, des gens qui dirigent. Et par conséquent, ici, ceux qui seront, qui auront la joie, le privilège de participer à cette première résurrection, eh bien, ils régneront. Et ils régneront, nous est-il dit, ici, pendant 1000 ans. Et cette affirmation que nous trouvons au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse a donné lieu à ce que nous appelons la doctrine du millénium, le règne millénaire de Jésus, un règne qui durera pendant 1000 ans. Alors, cette doctrine a toujours été très controversée depuis les origines de l'Église, et elle l'est à nouveau de nos jours, y compris dans les milieux évangéliques. Que faut-il penser du millénium? Eh bien, la première affirmation que nous devons donner à ce sujet, c'est que cette doctrine du millénium, elle est non seulement conforme à l'enseignement des prophètes, des livres des prophètes, mais qu'elle est aussi conforme à la tradition juive. Il y a cette idée que entre ce monde actuel, on appelle en hébreu cette expression « haolam hazeh », ce monde-ci, et puis il y a un autre monde, le monde qui vient, on appelle ça « haolam haba'a » en hébreu. Et il y a une espèce de période intermédiaire où ces deux mondes se chevauchent, où ce monde-ci et le monde qui vient se rencontrent. Et ça, ce sont les jours du règne du Messie. Ou encore, ce que le Nouveau Testament, ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? C'est une situation où, comme le dira Jésus dans la prière qu'il nous a enseignée, la volonté de Dieu qui s'accomplit parfaitement dans le ciel s'accomplira de la même manière sur la terre. Le ciel, c'est l'endroit où la volonté de Dieu s'accomplit d'une manière parfaite et totale. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et à l'instant même, il y a de la lumière. Il n'y a pas l'ombre d'une opposition, il n'y a pas l'ombre d'une résistance à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Dieu dit à un ange, fais ceci, et il le fait immédiatement, sans l'ombre d'une hésitation. Sur la terre, depuis la chute, depuis le drame de l'Éden, il n'en est pas ainsi. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur la terre échappe à la volonté de Dieu. Dieu est le souverain, il est le maître, il dirige toutes choses. Mais même si rien de ce qui se fait ici-bas n'échappe à cette volonté de Dieu, dans chaque détail, ce qui se passe sur la terre n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre volonté qui s'accomplit sur la terre. C'est la volonté du diable, de Satan. Et puis aussi, des hommes qui ont pris le parti de Satan contre Dieu. Et Dieu est obligé de tenir compte de cette volonté. À cause du péché de l'homme, Satan peut dire à Jésus, en lui montrant tous les royaumes de ce monde, « Ces royaumes m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. » Et Jésus ne dit pas que ce n'est pas vrai. Il reconnaît qu'effectivement, Satan est le prince de ce monde. Et vous voyez ce qui se passe ici dans notre texte? Quand le Seigneur revient dans sa gloire, il saisit Satan. Et Satan est lié. Ça veut dire, ce pouvoir qu'il a reçu à l'Éden à cause du péché de l'homme, il en est maintenant privé. Il en est dépossédé. Et le voilà réduit à l'impuissance. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Même si potentiellement déjà il est vaincu par la croix de Jésus. Mais pendant ce temps du règne millénaire, du règne messianique, Satan est réduit à l'impuissance. Ce qui veut dire que s'accomplit sur cette terre ce qui s'accomplit dans le ciel, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ça veut dire que cette humanité va jouir après ce temps de détresse dont nous avons parlé ces jours, va jouir d'une période de paix, d'une période de bonheur qui rappellera la situation de l'Éden avant la chute. Et les prophètes ont décrit, pas simplement dans des images, mais je crois que c'est à prendre vraiment au sens littéral, ce que sera ce temps merveilleux. Le loup habitera avec l'agneau. Les animaux féroces auront perdu leur férocité. Les ours mangeront de l'herbe comme les vaches. Et même, le serpent aura perdu sa dangerosité. Et un jeune enfant pourra s'amuser avec un serpent comme si c'était un petit chien ou un petit animal comme ça. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Mais en même temps, la vie continuera. Ça veut dire qu'il y aura des naissances, il y aura des mariages, il faudra manger, boire exactement comme c'est aujourd'hui, mais avec la différence que tout mal, toute souffrance, toute guerre, tout péché aura disparu de cette humanité. Et voyez-vous, ce temps durera 1000 ans. Et là, contrairement à ce que je vous ai dit en parlant d'un certain nombre d'autres chiffres de l'Apocalypse, je pense qu'il faut prendre ce nombre 1000 au sens propre du terme. Pourquoi ? À cause d'une vieille tradition que nous trouvons dans le judaïsme. On appelle ça la prophétie d'Élie. Elle est basée sur le premier verset du psaume 90, prière de Moïse. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour. » Il y a cette idée dans le judaïsme chez les rabbins que le monde doit durer 7000 ans, c'est-à-dire autant qu'il y a de jours dans une semaine, puisque 1000 ans sont comme un jour. Et il y aura donc ici 6 jours qui seront comme les 6 jours de la semaine où l'être humain est obligé de travailler. Il est obligé de travailler à cause de la malédiction du péché et le fait qu'il soit contraint de travailler pour pouvoir manger son pain est précisément une des marques qui lui rappelle qu'il est placé sous le monde de la chute, sous la malédiction de la chute. Et il y a à la fin de la semaine un 7e jour, le jour du Shabbat, où l'homme peut ne plus travailler. Ce jour, ce 7e jour, c'est le Shabbat, et par conséquent, c'est un jour où l'homme échappe à cette malédiction qui a été la malédiction du travail à cause justement de la malédiction de l'Éden et du péché. Et dans la tradition juive, le jour du Shabbat est une anticipation, un signe prophétique de ce qui se passera au temps de la fin pendant le règne messianique. Alors, selon ce schéma que je vous ai exposé tout à l'heure, un jour est comme 1000 ans. Il y a 6 premiers millénaires, 6000 ans, qui seront marqués justement par la malédiction de la chute, où l'homme subira les conséquences de son péché, toutes ces conséquences que nous connaissons bien. Mais lorsque le Messie viendra, à la fin de ce 6e millénaire, alors il commencera le 7e millénaire, qui sera le Shabbat. Un millénaire où, comme le 7e jour de la semaine, l'homme échappe à la malédiction de l'Éden. Et il retrouve quelque chose de ce qu'il a perdu en Adam. Il y a eu de nombreuses spéculations parmi les sages pour savoir combien de temps durerait justement ce temps messianique. Alors les opinions ont varié entre 70 ans et 7000 ans. Mais l'idée la plus généralement répandue parmi les sages, c'est que ce temps durera 1000 ans. Et c'est exactement ce que nous retrouvons ici dans notre texte de l'Apocalypse. Et pendant ce temps, eh bien, les hommes pourront justement voir quelque chose de cette gloire de Dieu. Le Messie régnera sur la terre. Ce sera le royaume messianique. Jérusalem sera la capitale de non plus le grand village mondial dont Babylone était le centre, mais qui sera maintenant la cité sainte, la ville de Dieu. Et comme l'a annoncé le prophète Isaïe au chapitre 2, les nations monteront à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel. Et puis, ce temps durera 1000 ans. Pourquoi seulement un temps limité? Parce que finalement, c'est ce qui apparaît dans notre livre de l'Apocalypse. Ce temps est limité. À la limite, je veux bien qu'on discute la durée, mais ce qui est indiscutable, c'est que ce temps prendra fin. Et au bout de ce temps, il y a quelque chose qui nous étonne. Satan, qui a été lié, pour qu'il cesse justement de séduire les nations, eh bien, Satan est relâché. Et on se demande, mais pourquoi, Seigneur, faut-il que Satan soit relâché? Alors la réponse, elle est très simple. Pendant le millénium, pendant le règne messianique, nous l'avons vu, la vie continuera pour les hommes, en tout cas qui n'auront pas participé à la première résurrection, ça veut dire ceux qui ont échappé à tous les fléaux qui se seront produits, la vie continuera comme à l'heure actuelle. Il y aura des mariages, des naissances, etc. Et ceux qui naîtront pendant cette période-là et qui vivront un millénaire, pratiquement, auront évidemment un privilège extraordinaire. Une vie de bonheur, de joie, de paix totale. Ils ne connaîtront pas ce que vous et moi nous connaissons. La souffrance, la maladie, le péché, les haines, les querelles, les guerres, les famines, bref, toutes ces choses. Alors, on pourrait dire, Seigneur, dommage, je suis né trop tôt. J'aurais bien aimé pouvoir naître pendant ce temps-là. Ça m'aurait évité de galérer comme je galère aujourd'hui. Et puis surtout, ces gens-là ne connaîtront pas ni la tentation ni le péché. Et voyez-vous, Dieu est juste. Et parce qu'il est juste, Dieu se doit de rétablir l'égalité des chances. Pourquoi Satan sera-t-il relâché au bout de ces 1000 ans? Pour que ceux qui sont nés pendant cette période-là sachent aussi ce que c'est que la tentation et comme vous et moi soit dans l'obligation de se déterminer pour ou contre Dieu. C'est normal ou pas? Bien sûr, c'est normal. Dieu est juste. Et là, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous stupéfie. Cette humanité qui aura vécu dans ces conditions paradisiaques que nous avons évoquées, cette humanité qui saura aussi ce qu'Adam ne savait pas, ce que sont les conséquences des péchés, du péché, parce qu'on les lui aura raconté. Il en verra peut-être encore les signes. Eh bien, dans sa grande majorité, dans son immense majorité, cette humanité reprendra le parti de Satan contre Dieu. On a de la peine à réaliser ça. Et pourtant, c'est ce que nous dit la Bible. Ça nous montre deux choses. La perversité du cœur de l'homme et la subtilité de l'adversaire. Et là, quand cette ultime épreuve a lieu, ce dernier test, tu dis, bon, maintenant, ça suffit. Et un ultime jugement tombe sur cette humanité dégénérée. Satan est définitivement mis hors d'état de nuire, cette fois-ci pour l'éternité. Et ce que nous avons évoqué, qui était le centre même de notre Apocalypse, « Je fais toute chose nouvelle », une création nouvelle se trouve. La nouvelle Jérusalem descend du ciel. et c'est l'état éternel. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce chapitre, ces deux derniers chapitres, 21 et 22 du livre de l'Apocalypse, mais je suis obligé d'aller très très vite. Je voudrais simplement insister sur ce verset qui nous dit ceci. Dans cette ville de Jérusalem, qui n'est pas n'importe quelle ville, vous le remarquez, ce n'est pas Rome, ce n'est pas New York, ce n'est pas Moscou, c'est vraiment Jérusalem. Et dans cette Jérusalem nouvelle, dont les portes ne seront fermées ni jour ni nuit, il nous est dit, on y apportera la gloire des nations. Qu'est-ce que c'est que la gloire des nations ? Voyez-vous, là, il y a une doctrine fondamentale de la Bible que nous devons comprendre. Il me faudrait tout un temps pour vous expliquer ça. Je suis obligé d'aller très, très, très vite ce matin. Mais ce qui est la gloire des nations, ou des païens, parce qu'on peut traduire ça aussi de la même manière, eh bien, c'est ce dont on peut être fier. Gloire, ça se dit en hébreu, kavod. Et kavod, ça vient du mot kaved, qui signifie quelque chose de lourd, quelque chose qui a du poids. Et par conséquent, quelque chose qui demeure. Paul nous dit quelque chose de semblable dans la première aux Corinthiens, quand il nous dit ceci, « Moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et chacun doit construire sa vie sur ce fondement qui est le Messie. Mais prenez garde à la manière dont vous allez construire votre vie. » Vous pouvez construire votre vie avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ou vous pouvez construire votre vie avec du foin, de du chaume ou de la paille. Et ce jour-là, ça veut dire le dernier jour, manifestera ce qu'est l'œuvre de chacun parce que ce jour-là sera comme un feu. Et si ta vie est construite avec du foin, du chaume, du bois, qu'est-ce qui se passera devant le feu du dernier jour ? Tout ça brûlera et partira en fumée. Si ta vie est construite avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, le feu ne les touchera pas. Et ce sera ta gloire. Et tu entreras dans la nouvelle Jérusalem avec des offrandes au Seigneur. Des choses dont tu pourras être fier. Des choses qui seront ta gloire, parce que tu diras, Seigneur, comme le disait le bon serviteur, tu vois, tu m'as donné 2 talents, je t'en rapporte 4. Tu m'en avais donné 5, je t'en rapporte 10. Tu m'en avais donné 1, je t'en rapporte 2. Et Dieu dira, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes, entre dans la joie de ton maître. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul déclare ceci. Il dit, Dieu a voulu tout récapituler en lui, Jésus. Tout récapituler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette nouvelle Jérusalem, j'ai parlé tout à l'heure du fait que cet état éternel était Jérusalem. Qu'est-ce que c'est Jérusalem ? C'est une histoire. C'est le résumé de toute l'histoire humaine. En fin de compte, vécu avec Dieu. La Bible commence dans un jardin et elle s'achève dans une ville. Et non pas dans un jardin comme le Coran. Une ville, eh bien, c'est la construction des hommes. C'est ce que les hommes ont fait. Et voyez-vous, Dieu ne crée pas une ville qui va être construite par les hommes, et l'idée que les hommes construisent le monde futur par leurs efforts, c'est une hérésie grave. Ce n'est pas biblique. Cette nouvelle Jérusalem, il nous est dit, c'est Dieu qui en est l'architecte et le constructeur. Mais Dieu construit avec des matériaux que vous et moi, nous lui fournissons. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Des matériaux que nous lui fournissons, ça veut dire quoi ? Eh bien, il y a un texte très intéressant où Jésus dit « Il n'est personne qui aura donné à un de ses petits un verre d'eau parce qu'il est mon disciple qui ne retrouvera un jour sa récompense. » Vous êtes ici, il y a des gens qui sont des parents, d'autres qui sont des grands-parents. C'est mon cas. Et pour la fête des mères, pour la fête des pères, vos enfants vous font des petits cadeaux, n'est-ce pas? Des dessins particuliers. Ces dessins, ce n'est pas des chefs-d'œuvre immortels. Vous n'allez pas les afficher au musée du Louvre. Et finalement, sur un plan proprement artistique, ils ne valent rien. Mais si c'est un cadeau que vous a fait votre fils ou votre fille, votre petit-fils ou votre petite-fille, ça a de la valeur. Pas en soi, mais pour vous. Parce que c'est un témoignage de son amour pour vous. Et voyez-vous, quand nous donnons au Seigneur un verre d'eau, quand nous donnons au Seigneur notre dîme, comme ça a été le cas tout à l'heure, quand nous faisons un effort pour le Seigneur, c'est toujours quelque chose de maladroit. Et comme le dira le Seigneur, nous sommes toujours des serviteurs inutiles. Dieu aurait pu se passer de ça. Mais parce qu'il nous aime et parce que nous aimons le Seigneur, Dieu accepte ça. Et avec ce verre d'eau que tu as donné, Dieu va construire la Jérusalem céleste. Et ce verre d'eau, tu vas le retrouver non pas sous la forme d'un verre d'eau, mais sous la forme d'un trésor, d'une pierre précieuse, d'une rue pavée d'or, d'une perle qui se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur te dira quand tu rentreras dans Jérusalem, tu vois ça? Ce pan de mur là, tout en or, eh bien c'est toi qui as fourni ça. Moi, Seigneur? Oui, quand tu as donné ce verre d'eau. C'était un simple verre d'eau, Seigneur. Oui, mais moi, je l'ai transfiguré. Et tu le retrouves maintenant sous la forme de cette perle, cette pierre précieuse, merveilleuse. Alors, je pourrais longtemps continuer sur ce thème. Je m'arrête et je voudrais conclure. C'est pourquoi Paul nous dit ceci, que chacun prenne garde à la manière dont il construit sa vie. Nous pouvons construire notre vie avec comme seul horizon cette vie terrestre. Ça veut dire réussir dans cette vie. Et par conséquent, faire des efforts en fonction de la terre uniquement. Une réussite terrestre dans le domaine des affaires, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, que sais-je encore. Eh bien, c'est construire avec du chaume, du foin, du bois. Et quand nous aurons construit notre vie comme cela, il ne se passera rien au dernier jour. Sauvé peut-être, mais sauvé comme au travers du feu, nous dit l'apôtre Paul. Ou bien nous pouvons avoir la perspective éternelle et savoir que quand elles sont faites en Dieu, les tâches les plus humbles qui soient, eh bien, Dieu les voit. Et Dieu les recueillera au dernier jour. Et nous les retrouvons dans la Jérusalem céleste. Alors je pose la question, ce sera ma dernière, la chose essentielle, je pense. Quelles sont les priorités de nos vies? Quelles sont les préoccupations les plus importantes qui sont les nôtres? Est-ce que notre préoccupation, c'est de nous faire une place au soleil dans ce monde? D'être un premier dans ce monde? Si tu veux être le premier dans ce monde, tu seras le dernier dans le royaume de Dieu. Mais si parce que tu veux être le premier dans le royaume de Dieu, tu acceptes d'être le dernier dans ce monde, tu seras le premier là-haut. Il y a un choix, tu ne peux pas avoir les deux, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être à la fois le premier dans ce monde et le premier dans le royaume de Dieu. Si tu veux être le premier dans le royaume de Dieu, il y aura toujours un prix à payer dans ce monde. Il y aura toujours des choses à renoncer. Ça ne veut pas dire qu'on sera le dernier des balayeurs des rues, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire que quelque chose, quelque part, sur un plan humain, nous avons quelque chose à perdre. Et il faut accepter de le faire. Je voudrais terminer par une petite anecdote qui a été vécue par un de mes amis. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici déjà. C'est un de mes amis qui est entrepreneur en bâtiment dans la région de Bordeaux. Il y a 3 ans de cela, il travaillait sur un terrain vague qu'il était en train de défricher avec un bulldozer pour y construire ensuite un bâtiment. Et pendant qu'il était en train de travailler, c'était début septembre, faisait encore très chaud là-bas, il était torse nu, il avait sa cabine ouverte. La chenille droite de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui était à l'horizontale, comme ça. Et le poids du bulle a fait que le tronc d'arbre s'est relevé à la verticale. Et il est allé frapper une branche qui était juste à l'aplomb de la cabine dans laquelle se trouvait notre ami. Et sur cette branche, il y avait un nid de frelons asiatiques qui est tombé directement dans la cabine de notre ami. Il a été piqué par 56 frelons, plus qu'il n'en faut pour tuer n'importe quel individu normal. Or, ce frère Emmanuel, il s'appelait, était allergique au venin de guêpe. Après avoir appelé au secours, il est tombé dans le coma. Quand le SAMU est arrivé, il a été déclaré mort. Il est resté 4h30 en état de mort clinique. Il a été transporté à l'hôpital, on a averti sa femme qu'il était mort, qu'elle vienne le récupérer. Et quand sa femme est arrivée à l'hôpital, le miracle a eu lieu, le frère est revenu à la vie. Et il a raconté ce qu'il a vu. Il a dit, quand je suis arrivé là-bas, quand j'ai perdu connaissance, j'ai été transporté à une vitesse extraordinaire, dans un lieu absolument magnifique, un lieu que je ne peux pas décrire. Il n'y a pas de mot humain pour décrire ce que j'ai vu, disait-il. Paul nous dit ça aussi. Il a été transporté au troisième ciel et qu'il a vu des choses qu'il est interdit à un homme de répéter. Mais tout ce que je peux dire, disait-il, c'était que c'était un endroit absolument magnifique, merveilleux. J'étais dans une paix, dans une joie, dans un bonheur que je n'ai jamais connu ici-bas. Et j'ai entendu le Seigneur qui m'a parlé et qui m'a dit, tu vas revenir sur la terre. J'ai dit, non, Seigneur, je suis trop bien ici. Le Seigneur a dit, si, tu vas revenir sur la terre. Parce que c'est moi qui t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici pour te confier un message pour mon peuple. Tu vas aller dire à mon église que je reviens bientôt et qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne m'attend pas, qu'elle n'est pas heureuse que je revienne, et que par conséquent, elle risque d'être surprise. Tu vas leur dire qu'il faut qu'ils se sanctifient et qu'ils se purifient, parce que je ne viens pas chercher une prostituée, mais je viens pour chercher une épouse. Tu vas leur dire qu'il faut qu'ils remettent les priorités dans leur vie. Et voilà, c'est le message maintenant qu'ils diffuse quand on l'invite dans des églises pour donner son témoignage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps après, il s'est rendu en Israël pour 3 mois de volontariat dans un centre de l'agence juive, là où est mon fils. Et au bout de ces 3 mois, il a pris quelques jours pour visiter le pays. On lui avait donné l'adresse de chrétiens qui se trouvaient à Jérusalem, qui avait accepté de les loger pendant le temps de leur visite là-bas. Et quand il est arrivé chez ce frère, ils ont commencé à parler, et notre frère Emmanuel a exposé notamment cette expérience bouleversante qu'il avait faite. Et son vis-à-vis lui a dit, « Mais mon cher frère, il m'est arrivé exactement la même chose. Il y a quelques mois, j'ai fait un arrêt cardiaque, je me suis retrouvé dans les mêmes conditions que vous, et ce que j'ai entendu de la part du Seigneur, c'était mot à mot, vous m'entendez ? Mot à mot, la même chose que ce que le premier avait entendu, Emmanuel avait entendu. 2 personnes qui ne se connaissaient pas, qui étaient à des milliers de kilomètres les unes des autres, et que le Seigneur a permis qu'ils se rencontrent après qu'ils aient fait la même expérience. Et enfin, quelques jours après encore, il était en Galilée. Et c'était la même chose, il a été logé chez quelqu'un qui avait fait aussi la même expérience, qui avait entendu les mêmes choses de la part du Seigneur. Selon qu'il est écrit, toute chose sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors voilà, je crois que tout a été dit. Il y a ce que nous dit la fin de notre Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent viens. Que celui qui entend dise vient, car je viens vite, et non pas bientôt, comme on traduit, je viens vite. Voilà, il vient vite, est-ce que tu es prêt ? Est-ce qu'il y a les véritables priorités dans ta vie? Alors peut-être que justement ce temps est un temps pour s'examiner, pour prier comme le faisait David, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Voici, je marche sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Prions maintenant. Seigneur, merci pour la destinée merveilleuse que tu places devant nous, pour l'espérance qui s'attache à ton appel. Cette espérance, Seigneur, de cette éternité bienheureuse avec toi. Cette certitude, Seigneur, que maintenant nous arrivons à la fin de ce temps et que tu viens vite. Seigneur, ne permets pas que nous soyons des gens qui réagissent avec légèreté en face de ces choses. Seigneur, tu l'as attesté dans ta parole d'abord et pour nous c'est suffisant. Mais nous en voyons les signes autour de nous. Et tu envoies aussi, Seigneur, ces hommes pour nous avertir que le temps est véritablement proche. Alors, Seigneur, ne permets pas que nous soyons négligents. Nous réalisons, Seigneur, que face à ces choses, nous serions inexcusables si nous étions trouvés dans un état de non-préparation. Seigneur, aide-nous à examiner nos vies pour voir avec quels matériaux elles sont construites. Si nous avons du chaume, du bois, du foin dans nos vies qui flamberont au dernier jour, et au contraire, si nous avons des matériaux précieux. Merci Seigneur, parce que même si l'essentiel de nos vies pour l'heure était encore composé de ces matériaux vils, même s'il est tard, il n'est pas encore trop tard. Et nous pouvons encore, dans le peu de temps qui nous reste, construire avec des matériaux précieux. Aide-nous, Seigneur, de ne pas attendre une seconde de plus pour débarrasser nos vies de tout ce qui les encombre et pour revenir à ces priorités dont tu parlais à nos frères, cet essentiel qui nous permettra d'entrer dans la nouvelle Jérusalem avec ce qui sera notre gloire et non pas ce qui sera notre honte, non pas avec les mains vides, mais avec ces talents qui nous permettons de dire, c'est peu, Seigneur, je suis un serviteur inutile, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai fait pour ta gloire. Alors permets, Seigneur, que nous entendions cette parole. C'est bien bon et fidèle serviteur. Oui, tu as été fidèle en peu de choses, mais j'en confierai de grandes. Entre dans la joie de ton maître.